chanter pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.
Bonjour chers amis auditeurs et bonjour Martine.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Alors Martine, la semaine dernière vous avez commencé à nous parler des 7 sacrements de l'Église et notamment de l'initiation chrétienne ensemble qui regroupe le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, 3 étapes fortes. Aujourd'hui vous allez nous éclairer sur les 2 autres ensembles de sacrements. Quel chant pour cette émission ?
Alors Emmanuel, j'ai choisi le chant par l'onction qui est coté KY51-11-1, dont l'auteur est Claude Bernard pour les paroles et le compositeur Michel Wackenheim. Donc il est édité aux éditions Bayard et il a été publié dans Signe Musique numéro 115.
Martine, on vient d'écouter voilà, ce chant. Tout de suite, après l'initiation chrétienne, quel est le deuxième ensemble de sacrements ?
Alors, je reviens pour l'initiation chrétienne en disant que par les sacrements d'initiation chrétienne, l'homme reçoit la vie nouvelle du Christ. Or, Cette vie, nous la portons en des vases d'argile, comme nous dit Paul en s'adressant aux Corinthiens. Cette vie nouvelle d'enfant de Dieu peut être affaiblie et même perdue par le péché. Mais Jésus, médecin des âmes et du corps, a voulu que son Église continue son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses membres. C'est le but des deux sacrements de guérison, la pénitence et l'onction des malades.
Alors éclairez-nous sur la pénitence, Martine.
Je dirais ceci. Quel est le Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne le crime, mais qui prend plaisir à faire grâce, une fois de plus, aie pitié de nous. Foule aux pieds nos fautes, jette au fond de la mer tous nos péchés. Confère Michée, chapitre 7, versets 18 à 19. C'est par cet appel au pardon divin que le prophète Michée, de Morachet, conclut son livret écrit « Au temps des rois Jotam, Achaz, Ézéchias, après toute une série d'oracles de jugement sur Israël, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Confère l'évangile de saint Marc au chapitre 2, verset 5. C'est en ces termes que Jésus s'adresse aux paralysés descendus dans la maison à travers le toit à Capharnaüm. Et après la discussion avec les scribes, Jésus ordonne aux paralysés « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Nous le retrouvons dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 2, verset 11. Quand on pense sacrement de pénitence, il nous vient à l'esprit toute une série d'autres mots, plus ou moins usités, tels que confession, pardon, réconciliation, etc. Parcourons donc les différentes appellations qui nous disent chacune quelque chose de ce sacrement. Il est dit le sacrement de conversion, puisqu'il réalise sacramentellement l'appel de Jésus à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, que nous retrouvons dans l'évangile de saint Marc au chapitre 1, verset 15, et la démarche de revenir au Père, que nous retrouvons dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 15, verset 18, dont on s'est éloigné par le péché. Il est dit le sacrement de pénitence, puisqu'il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. Il est le sacrement de confession, puisque l'aveu, la confession des péchés devant le prêtre, est un élément essentiel de ce sacrement. Il est le sacrement du pardon, puisque par l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde aux pénitents le pardon et la paix. Il est dit sacrement de réconciliation, car il donne au pécheur qu'il accueille l'amour de Dieu qui réconcilie. Laissez-vous réconcilier par Dieu, demande Paul aux Corinthiens. Les sacrements, tout en étant autonomes, ont néanmoins des liens entre eux. On pourrait dire que le baptême et la pénitence sont complémentaires. La pénitence actualise l'acte baptismal. Elle le réactualise dans le concret d'une existence où le péché a encore sa place. La pénitence est aussi en lien avec l'Eucharistie. Perdre la conscience du péché entraîne toujours une certaine superficialité dans la compréhension de l'amour de Dieu lui-même, se sentir indigne d'accueillir le Dieu en nous. De même, la relation entre l'Eucharistie et la pénitence nous rappelle que le péché n'est jamais une réalité exclusivement individuelle. Il comporte toujours également une blessure, contre-témoignage par exemple, au sein de la communauté ecclésiale dans laquelle nous sommes insérés par le baptême.
Alors Martine, parlez-nous de l'onction des malades.
La maladie et la souffrance ont été, sont, et resteront toujours parmi les grandes énigmes qui éprouvent la vie des hommes. Dans sa maladie, l'homme fait l'expérience de son impuissance. Impuissance face à la maladie, impuissance face aux médecins, puisque les médecins ne trouvent pas forcément. De son impuissance, de ses limites et de sa finitude. Jésus n'a pas seulement envoyé ses disciples pour guérir les malades, comme il est écrit dans les évangiles de saint Matthieu et saint Luc, qui le rapporte à plusieurs reprises d'ailleurs, mais il a aussi institué un sacrement spécifique dit l'onction des malades. La lettre de Jacques atteste déjà la présence de ce geste sacramentel dans la première communauté des chrétiens. Nous pouvons aller justement relire cette lettre au chapitre 5, versets 14 à 16. Renouant avec la tradition primitive, les pères conciliaires de Vatican II estiment préférable de parler d'onction des malades plutôt que d'extrême onction. Par là, il marque ainsi que ce sacrement n'est pas le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité, mais qu'il convient pour ceux qui commencent à être en danger de mort par suite d'une infirmité ou en raison de leur grand âge. Par l'onction sacrée des malades et la prière du prêtre, toute l'Église recommande les malades au Seigneur, souffrants et glorifiés, afin qu'ils adoucissent leurs peines et les sauvent. Et même elle les exhorte à s'unir spontanément à la passion et la mort du Christ pour contribuer ainsi au bien du peuple de Dieu. De plus, le don de l'Esprit renouvelle la confiance et la foi en Dieu et la fortifie, comme nous avions vu précédemment dans les émissions dédiées à l'Esprit-Saint. Le Concile de Trente et celui de Vatican II à sa suite relient les deux sacrements, l'onction des malades et la pénitence. Les deux axes sont orientés tous les deux vers la guérison. Cette relation est justifiée tant par la parole sacramentelle de l'onction qui demande le pardon des péchés que par une compréhension spirituelle de la pénitence comme une guérison. La relation entre l'onction des malades et la pénitence ne doit pas faire oublier le lien qui rattache l'onction des malades au baptême. En effet, l'onction des malades communique effectivement une possibilité de vivre en baptisé, en fidélité active au baptême, et cela dans l'épreuve et la maladie, voire l'angoisse et la solitude. À sa manière, elle actualise le baptême comme le font à d'autres titres la confirmation et la pénitence.
Alors nous terminons avec le troisième ensemble, les sacrements du service de la communion.
Alors, l'ordre et le mariage sont ordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu.
Alors commençons donc par l'ordre, c'est ça ?
Tout à fait. Et vous allez savoir qu'est-ce qu'est l'ordre, Imanol. Ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre sont consacrés pour être, au nom du Christ, par la parole et la grâce de Dieu, les pasteurs de l'Église, c'est-à-dire les diacres, les prêtres et les évêques. L'ordre est donc le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. C'est le sacrement du ministère apostolique. Il comporte trois degrés, l'épiscopat, les évêques, le presbytérat, les prêtres, et le diaconat, les diacres. Mais dans l'ordination, nous commençons par le diaconat, ensuite le presbytérat, et le troisième, l'épiscopat. Toutes les préfigurations du sacerdoce de la Première Alliance trouvent leur accomplissement dans le Christ Jésus. Comme les autres sacrements, Jésus a institué ce rite. Le Concile de Trente fait référence à quatre textes néo-testamentaires. Celui de Vatican II y ajoute trois textes pauliniens. En instituant ce sacrement, Jésus a établi des ministres, que sont les apôtres. Et par les apôtres, il a fait participer à sa consécration et à sa mission les évêques, qui sont leurs successeurs, Emmanuel. Le sacrement de l'ordre se célèbre par l'imposition des mains sur la tête de l'ordinant et une prière de consécration conséquente qui fait d'un fidèle baptisé un ministre ordonné. Nous voyons que l'Esprit est quand même très à l'œuvre dans tous ces sacrements. Par un don particulier de l'Esprit, cette consécration permet d'exercer un pouvoir sacré au nom et par l'autorité du Christ pour le service du peuple de Dieu. Le sacrement marque d'une empreinte que nul ne peut faire disparaître l'évêque et le prêtre configuré au Christ prêtre, ainsi que le diacre configuré au Christ serviteur. Là où se trouvent les prêtres, sous l'autorité de l'évêque, ils rendent visible l'Église universelle et contribuent à l'édification de tout le corps mystique du Christ. Au degré suivant, on trouve les diacres, qui reçoivent l'imposition des mains, non en vue du sacerdoce, mais en vue du service. En effet, ils servent la parole de Dieu. Le lien intrinsèque entre l'Eucharistie et l'ordre découle des paroles, même de Jésus au Cénacle. « Faites ceci en mémoire de moi. » En effet, Jésus, la veille de sa mort, institue l'Eucharistie et fonde en même temps le sacerdoce de la Nouvelle Alliance. Aussi, l'Église fait de l'ordination sacerdotale la condition indispensable pour la célébration de l'Eucharistie. Personne ne peut dire « ceci est mon corps et ceci est la coupe de mon sang » si ce n'est au nom et en la personne du Christ, unique souverain prêtre de la nouvelle et éternelle alliance.
Alors, pour finir cette émission, pour achever cette émission, nous finissons par le mariage, Martine.
Oui, très bel, très, très, très beau sacrement. Le mariage est dans le dessein de Dieu. D'une part, dès le premier chapitre de la Bible, c'est la création de l'homme et de la femme, seule créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous retrouvons, bien sûr, ceci dans la Genèse au chapitre 1, versets 26 à 27. D'autre part, avec le livre de l'Apocalypse, la Bible se termine par la vision des noces de l'agneau. Bien sûr, nous retrouvons cela dans l'Apocalypse, chapitre 19, au verset 7 à 9. Dans l'Évangile de Jean, c'est dans le cadre d'un mariage, les noces de Cana, que Jésus commence à révéler le mystère de la Nouvelle Alliance. D'un bout à l'autre, les Écritures parlent du mariage et de son mystère. Dieu a créé l'homme par amour. Il l'a aussi appelé à l'amour, vocation fondamentale et innée de tout être humain. N'êtes-vous pas d'accord, Emmanuel ?
Si, absolument.
Le mariage n'est donc pas une institution purement humaine. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent une communauté de toute la vie a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Pour le pape Léon XIII, la raison pour laquelle le mariage est un sacrement, il dit ceci, c'est qu'il est un signe sacré qui produit la grâce et qui représente les noces mystiques du Christ. À sa suite, en 1964, les pères conciliaires de Vatican II ne déclarent pas autre chose quand ils proclament « Aux époux chrétiens, le sacrement du mariage donne de signifier en y participant le mystère d'unité d'amour fécond entre le Christ et l'Église. Les époux, comme ministère de la grâce du Christ, se confèrent mutuellement le sacrement de mariage en exprimant devant l'Église leur consentement. Vous avez peut-être déjà assisté à un mariage, Imanol, vous avez l'échange des consentements et ensuite la bénédiction des alliances. Le prêtre accueille ce consentement au nom de l'Église et donne la bénédiction de l'Église, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. La présence du ministre de l'Église et aussi des témoins exprime visiblement que le mariage est une réalité ecclésiale.
En conclusion, Martine, sans l'Esprit-Saint, le culte est juste une simple évocation.
Alors, je reprends votre phrase, Imanol, merci de l'avoir posée, d'avoir posé cette question tout au moins. Sans l'Esprit-Saint, les cultes est une simple évocation. C'est le patriarche Athénagoras qui évoquait ceci. Alors, sans l'Esprit-Saint, que sont les sacrements ? Des rites reçus, traditionnels, en un mot, du ritualisme. Il y a tout, la matière, la forme. Avec l'Esprit-Saint, les sacrements sont les actions du Christ ressuscité. Ce qui est né de l'Esprit est esprit, nous disait saint Jean. L'Esprit nous donne donc de vivre les sacrements en adulte. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père », nous dit Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 13 à 16.
Merci beaucoup Martine de cet éclairage très intéressant. La semaine prochaine pour l'émission Chanter pour le Seigneur, je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés.
Merci Manol et au revoir à tous nos amis auditeurs.
C'était Chanter pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.